Chapitre 13. Le premier coup manque Cassade de moins d'un mètre et fend le rocher devant lequel il passait. Il fait un bond avant que le souffle ne l'atteigne. Il roule sur lui-même pour se mettre à l'abri, son polymère de camouflage activé au maximum, son armure d'impact tendue, son fusil d'assaut prêt à tirer, sa visière de casque en alerte. Il demeure tapis un long moment. Son cœur martelant sa poitrine, scrutant les collines, la vallée et les tombeaux à la recherche du moindre mouvement ou de la moindre trace thermique. Mais il n'y a rien. Un rictus se forme derrière le miroir noir de sa visière. Celui qui a tiré sur lui l'a manqué volontairement, il en est sûr. On s'est servi d'un pulsant, mis à feu par une cartouche de 18 mm. À moins que le tireur ne se soit trouvé à plus de 10 km de là, il ne courait aucun risque de rater sa cible. Cassade se relève pour courir vers l'abri du tombeau de Jade et le deuxième coup l'atteint en pleine poitrine, le projetant en arrière. Cette fois-ci, il grogne en se laissant rouler sur le côté, puis se rue vers l'entrée du tombeau, tous ses détecteurs en alerte. C'est une balle de carabine qui vient de le toucher. Celui qui joue ainsi avec lui se sert d'un fusil d'assaut polyvalent de la Force, à peu près semblable au sien. Il sait qu'il porte une armure de combat et qu'une telle balle ne peut rien contre lui, quelle que soit la distance. Mais le fusil d'assaut polyvalent a d'autres possibilités, et si, la prochaine fois, son attaquant décide d'utiliser le laser de combat, Cassade est mort. Il plonge dans l'entrée béante du tombeau. Toujours pas la moindre trace thermique, ni le moindre mouvement sur ses détecteurs, à part l'image rouge et jaune des empreintes des pas des autres pèlerins qui se refroidissent rapidement, à l'endroit où ils sont rentrés dans le sphinx quelques minutes auparavant. Cassade utilise son implant tactique pour balayer rapidement les bandes de communication métrique et optique. Toujours rien. Il agrandit 100 fois toute la vallée, introduisant les paramètres du vent et du sable, et active l'indicateur de cible en mouvement. Rien qui dépasse la taille d'un insecte ne bouge. Il émet des impulsions radar, sonar et l'orpho, défiant le tireur embusqué de se rallier sur elle. Toujours rien. Il demande l'affichage tactique sur son viseur des deux attaques précédentes. Des traînées balistiques bleutées se forment. Le premier coup est venu de la Cité des Poètes, à plus de 8 km de là dans la direction du sud-ouest. Le second, moins de 10 secondes plus tard, a été tiré du monolithe de cristal près d'un kilomètre plus bas dans la vallée. La logique voudrait donc qu'il y ait deux tireurs, mais Cassade est certain qu'il n'y en a qu'un seul. Il affine l'échelle d'affichage. Le deuxième coup est parti d'un point élevé du monolithe, à 30 mètres du sol au moins sur la façade. Il amplifie encore l'image. Il scrute, à travers la nuit et les derniers vestiges de la tempête de sable et de neige, l'immense structure. Mais il ne voit rien. Pas la moindre ouverture, pas la plus petite meurtrière. Seuls les milliards de particules colloïdales laissées dans l'air par la tempête rendent visible, l'espace d'une fraction de seconde, le rayon laser qui le prend pour cible. Mais il ne voit le trait vert qu'après avoir été touché à la poitrine. Il roule dans l'entrée du tombeau de Jade, en se demandant si les murs verts aideront à détourner un faisceau de lumière de la même couleur, tandis que les supraconducteurs de son armure de combat émettent un rayonnement thermique dans toutes les directions et que son viseur tactique lui confirme ce qu'il sait déjà. C'est-à-dire que le tir vient des hauteurs du monolithe de cristal. Cassade sent la douleur lui vriller la poitrine. Baissant les yeux, il voit par terre une rondelle de 5 cm de diamètre d'invulnarmure fondue. Seule la dernière couche de protection l'a sauvée. Mais il transpire comme une fontaine à l'intérieur et les murs du tombeau luisent littéralement sous l'effet du rayonnement thermique évacué par sa combinaison. Des biomoniteurs appellent désespérément son attention, mais il ne semble pas y avoir de dégâts sérieux. Les capteurs de son armure annoncent quelques circuits endommagés, rien d'irréparable. Son arme est toujours chargée, en état de fonctionner. Il réfléchit à ce qui est en train de se passer. Les tombeaux ont une valeur archéologique inestimable. Ils ont été conservés ainsi durant des siècles et représentent le legs du présent aux générations futures. Cela n'a rien à voir avec le fait qu'ils évoluent en marche arrière dans le temps. Ce serait un crime à l'échelle interplanétaire si le colonel Fedman Cassade devait mettre sa vie plus haut que tous ses trésors. Oh, et puis merde. s'exclame-t-il soudain en se laissant rouler en position de tir. Il arrose de son feu laser la façade du monolithe jusqu'à ce que le cristal se fracasse. Il se met à courir, lâchant tous les 10 mètres des rafales de projectiles explosifs, en commençant par le haut du bâtiment. Des milliers d'échardes de miroirs volent dans la nuit, tourbillonnant au ralenti jusqu'au sol, laissant à la face de l'édifice des trous aussi inesthétiques que des dents manquantes. Kassad règle de nouveau son arme sur faisceau large de lumière cohérente et arrose l'intérieur à travers les panneaux cassés. Un rictus apparaît sur ses lèvres, derrière la visière, lorsqu'une forme dégringole en flamme sur plusieurs étages. Il tire des phi, des faisceaux haute énergie d'électrons, qui percent le monolithe et creusent des cylindres parfaits de 14 cm de diamètre sur 500 mètres de long dans la paroi rocheuse qui borde la vallée. Il lance des grenades à micro-fragmentation qui explosent en dizaines de milliers de fléchettes après avoir traversé la façade de cristal du monolithe. Il lâche des chapelets d'éclats laser aléatoires capables d'aveugler tout ce qui regarde dans sa direction à partir de l'édifice. Il tire enfin des dards à guidage infrarouge par la chaleur du corps dans tous les orifices que lui offre la façade endommagée. Il plonge dans l'entrée du tombeau de Jade et relève sa visière. Les lueurs de l'édifice en flammes se reflètent sur les milliers d'éclats de cristal qui jonchent la vallée. La fumée monte dans la nuit où le vent s'est subitement calmé. Les dunes vermillons rougeoient sous les reflets des flammes. L'air résonne de temps à autre du carillon des stalactites de cristal qui se détachent et se brisent, certains pendant au bout d'un long filament de verre fondu. Kassad éjecte les cartouches et les chargeurs vides et les remplace par d'autres qu'il tire de sa ceinture. Il se laisse rouler sur le dos, respirant l'air frais qui vient de l'entrée du tombeau. Il ne se fait aucune illusion. Il pense que le tireur est encore en vie. « Mon état !» murmure-t-il. Il ferme les yeux quelques secondes, s'accordant un répit avant de continuer. Moneta lui est apparue pour la première fois sur le champ de bataille d'Azincourt par une matinée de la fin du mois d'octobre 1415 de l'ancien calendrier. La plaine était jonchée de cadavres français et anglais. Il avait poursuivi un ennemi dans la forêt et cet ennemi l'aurait tué s'il n'avait pas été aidé par une femme de haute taille, aux cheveux coupés courts et aux yeux inoubliables. Après leur victoire commune, aspergée du sang du chevalier vaincu, ils ont fait l'amour à même le sol de la forêt. Le réseau tactique historique de l'école de commandement militaire d'Olympus avait organisé cette steam-sim plus proche de la réalité qu'aucune expérience de ce genre accessible aux civils. Mais le fantôme de Moneta n'était pas une simple production de la sim. Au fil des ans, en tant qu'élève officier de l'ECMO, et plus tard dans l'euphorie des rêves épuisés post-cathartiques inévitablement provoqués par les combats réels, elle était revenue le hanter. Fedman Kassad et l'ombre qui portait le nom de Moneta avaient fait l'amour dans des coins paisibles de champs de bataille aussi divers que ceux d'Antietam ou de Comriad. Invisible pour tout le monde, y compris les autres élèves officiers de la Steam Sim, Moneta était venu à lui durant les nuits tropicales où il était de garde et durant les journées glacées de siège dans les steppes russes. Les nuits de Kassad avaient été pleines de chuchotements passionnés lors de la victoire d'Alliance Maui. Et quand il avait dû subir le douloureux processus de reconstitution physique après avoir été presque tué sur le continent sud de Brescia. Moneta avait été, partout, son seul amour, sa seule passion déchaînée, mêlée à l'odeur du sang et de la poudre, au goût du napalm, des lèvres tendres et de la chair ionisée. Puis il y avait eu Hyperion. Le vaisseau hôpital du colonel Fedman Kassad avait été attaqué par des vaisseaux torches extro tandis qu'il revenait du système de Brescia. Il avait été le seul survivant. Il s'était emparé d'une navette extro et avait pu se poser en catastrophe à la surface de la planète, sur le continent Equus. De là, il avait gagné les hauts plateaux désertiques et les steppes inhabitées des terres inhospitalières qui se levaient au-delà de la chaîne bridée. Puis il était entré dans la vallée des tombeaux du temps, le royaume du Gritch. Moneta l'y attendait. Ils avaient fait l'amour, et quand les extros s'étaient posés en force pour récupérer leurs prisonniers, Kassad et Moneta, avec l'aide du Gritch dont ils sentaient confusément la présence, avaient fait un carnage dans les rangs des extros, détruisant leurs vaisseaux et leurs commandos, massacrant leurs fantassins. Durant une période de temps limitée, le colonel Fedman Kassad, originaire des bidonvilles de Tarsis, fils, petit-fils et arrière-petit-fils de réfugiés, enfant de Mars dans tous les sens du terme, avait connu le pur plaisir extatique de se servir du temps comme d'une arme, de se déplacer, invisible, parmi ses ennemis, et de jouer au dieu de destruction d'une manière qu'aucun guerrier mortel n'avait jamais pu imaginer en rêve. Cependant, tandis qu'il faisait l'amour, Moneta s'était métamorphosée. Elle était devenue un monstre, ou bien le Gritch s'était substitué à elle. Kassad ne se souvenait pas des détails. Il ne voulait pas s'en souvenir tant que ce n'était pas pour lui une question de vie ou de mort. Ce qu'il savait, c'était qu'il était revenu ici pour retrouver le Gritch et le tuer. Pour retrouver Moneta et la tuer. La tuer, il ne le savait pas vraiment. Tout ce que savait le colonel Fedman Kassad, c'était que l'aboutissement de toutes les passions d'une vie intensément passionnée le conduisait ici, en cet instant, et que, si c'était avec la mort qu'il avait rendez-vous, eh bien, il en soit ainsi. Et si ce qu'il attendait était l'amour et la gloire ainsi qu'une victoire à en faire frémir les dieux du Valhalla, eh bien, ainsi soit-il aussi. Kassad rabaisse sa visière, se remet debout et fonce en hurlant à l'extérieur du tombeau de jade. Son arme crache des grenades fumigènes et des nuages de leurre en direction du monolithe, mais cela ne lui assure qu'une protection limitée eu égard à la distance qu'il doit parcourir à découvert. Quelqu'un de bien vivant tire toujours des parties hautes de l'édifice. Des balles et des charges pulsantes explosent sur son chemin tandis qu'il zigzague et feinte de dune en dune, d'un tas de décombres à l'autre. Des fléchettes l'atteignent aux jambes et à la tête. Sa visière s'étoile. Des voyants d'alarme se mettent à clignoter. Il annule tous les affichages tactiques, ne laissant que les dispositifs de vision nocturne. Des projectiles à haute vélocité le touchent à l'épaule et au genou. Il tombe. Son armure d'impact se rigidifie, puis redevient souple. Il se relève. Il court de nouveau, conscient des blessures dont il souffre. Le polymère caméléon fait des efforts désespérés pour refléter le terrain découvert qu'il traverse. Nuit, flamme, sable, cristal fondu et pierre qui brûle. À 50 mètres du monolithe, des rubans de lumière jaillissent sur sa droite et sur sa gauche, vitrifiant instantanément le sable, se propageant vers lui à une vitesse que rien ni personne ne saurait esquiver. Puis les lasers meurtriers cessent de jouer avec lui et frappent droit au but, transperçant son casque, son cœur et son entrejambe avec la chaleur de 1000 étoiles. L'armure devient brillante comme un miroir, changeant de fréquence en l'espace de quelques microsecondes, pour faire face aux couleurs modifiées de l'attaque. Un nimbe d'air super chaud l'enveloppe. Les micro-circuits glapissent, saturés et sursaturés, libérant de la chaleur et s'efforçant d'établir un champ de force micrométrique pour en préserver la chair et les os. Kassad parcourt péniblement les 20 derniers mètres en se servant de la motorisation de son armure pour franchir les derniers monceaux de cristal fracassé. Des explosions jaillissent de tous les côtés. Elle le renverse, puis le propulse sur ses jambes. L'armure est maintenant devenue entièrement rigide. Il n'est plus qu'un pantin que des mains de flammes se rejettent. Le bombardement cesse. Kassad se redresse sur ses genoux, puis sur ses pieds. Il lève les yeux vers la façade de cristal et voit surtout des flammes et des brèches. Sa visière est fracassée. Elle ne fonctionne plus. Il la relève, respire de la fumée et de l'air ionisé, puis entre dans le tombeau. Ses implants lui apprennent que les autres pèlerins l'appellent sur tous les canaux com. Il les coupe. Il retire son casque et s'avance dans l'obscurité. Il est dans une vaste chambre rectangulaire et sombre. Un puits d'accès est ouvert en son centre et il aperçoit, en levant la tête, une verrière fracassée à une centaine de mètres du sol. Une silhouette se découpe au 10e étage, environnée de flammes. Il met son arme en bandoulière à l'épaule, coince son casque sous son bras, trouve le grand escalier spiralé qui occupe le centre du puits et commence à grimper.